Alors, simplement pour rattraper les wagons à tout le monde, la lettre de Colossiens, c'est une lettre qui rappelle que Christ est suffisant, que Christ, c'est tout ce dont on a besoin pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Et Paul, dès les premiers chapitres, nous fait contempler tout ce que la beauté de ce que Christ a fait, de l'œuvre de la croix, de ce que cela veut dire, de la puissance, de la portée de l'évangile, que Jésus, justement, est Seigneur sur tout, dans le ciel comme sur la terre. Et là, on est actuellement dans une partie plus pratique, où à partir du verset 3, il nous dit, ben, oui, Jésus est suffisant, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans nos vies? Et Paul nous le montre de façon assez pragmatique, assez pratique. Dans nos choix, ça a un impact dans notre attitude, dans notre vie personnelle. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, ça va être encore plus concret dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos relations les uns avec les autres. Rappelez-vous ce qu'on avait dit dimanche dernier avec ce verset 16 au chapitre 3, qui était comme un cadre pour toute la suite. Paul dit que la parole de Christ habite en vous. Donc là, on est dans la notion du cœur, hein, que j'évoquais tout à l'heure, dans toute sa richesse, afin de pouvoir vivre cela. Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse, et après tout cela découle. Et pour Paul, la question, elle est toute simple. Qu'est-ce que cela donne que la parole de Christ habite dans nos cœurs? Qu'est-ce que ça donne dans nos foyers, dans nos relations, entre nos couples, la relation avec nos enfants? C'est le titre que j'évoque pour la prédication ce matin, c'est Jésus Seigneur dans toutes mes relations. Jésus Seigneur dans toutes mes relations, on pourrait dire. J'espère que cela va nous aider un peu à prendre l'importance du besoin de l'évangile, du besoin de la grâce, parce que c'est pas un texte les plus simples. Je vous invite à lire avec moi, on est au chapitre 3, on est à partir du verset 18, mais je vous invite juste à lire le verset qui était juste au-dessus, le verset 17, et vous verrez l'articulation assez clairement comment Paul présente les choses. Colossiens 3, à partir du verset 17, même si on va voir le verset 18 et suivant. Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Femmes, soumettez-vous à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son justice. Il n'y a pas de favoritisme. Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Voici la lecture de la parole de Dieu. Jésus Seigneur de toutes mes relations. Vous le sentez tout de suite, hein, je pense. C'est assez direct. Ce texte touche des sujets sensibles. Il y a des mots comme « soumettez-vous », il y a la question de l'esclavage, il y a la question de l'autorité, il y a la question de la famille, il y a la question des enfants. Peut-être que pour chacun de ces mots, il y a une interrogation. Ça vous heurte peut-être, ça vous interroge, ça réveille peut-être des blessures, et c'est tout à fait compréhensible. Parce que certains peut-être ont connu un mauvais usage de l'autorité. On vit dans une culture où toute autorité d'ailleurs est suspecte, en tout cas en Occident. Et il faut le dire, il y a des vrais abus. Il y a des abus d'autorité, y compris dans le cadre de nos familles. Alors ce matin, mon objectif est assez simple, hein, c'est de chercher avec le plus de clarté possible ce que la Bible dit, ce que Dieu nous enseigne ici dans sa parole. Et si à la fin de ce culte, ce que j'ai dit ou essayer de vous expliquer vous pose problème, venez me parler. Venez parler à Michel, sans souci. On pourra écouter vos objections, vos interrogations et poursuivre le dialogue. Mais que la parole de Dieu reste. Alors on pourrait se dire, bon, là, il est question de famille et de jeunes. Je suis peut-être célibataire. Je suis plus concerné. Je suis pas esclave. Je suis pas maître. Je suis pas concerné. Mais je crois qu'on est tous entourés de familles, de relations. Et je crois que ce texte a quelque chose à nous dire à chacun en tant qu'Église. Et ce matin, ça va être assez simple. Je vais suivre le déroulement du texte et j'ai deux axes principaux. D'abord, on va voir que l'impact que Jésus est Seigneur dans sa famille et puis après, l'impact, en fait, quelque part général sur toutes les relations, dans mon activité, quelle que soit ma situation. Mais avant d'entrer dans le concret un peu de ces deux aspects, de ces deux directions, il est important de se replacer dans le contexte parce que de réfléchir à qui Paul parle. Et j'ai un premier point, c'est un père seigneur de sa maisonnée, et ça c'est le contexte. Parce que qu'est-ce que c'est la famille dans l'antiquité gréco-romaine? C'est un monde un peu instable, c'est très loin de nos sociétés occidentales. Et on sait que la famille, on pourrait même dire la maisonnée, était au cœur de l'ordre social. C'est plus qu'une sphère privée, comme c'est le cas aujourd'hui. La famille, la maisonnée formaient une unité économique, une unité éducative, une unité religieuse, voire parfois même politique, presque autonome autour de la maisonnée. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de service public, il n'y avait pas, pour nous Français, c'est un peu difficile à imaginer, il n'y avait pas de sécu, il n'y avait pas d'État-providence, il n'y avait pas de CAF, il n'y avait pas d'allocation, il n'y avait pas de crèche, il n'y avait pas d'EHPAD, etc. Tout reposait sur la maisonnée. Elle était la cellule de base de toute la société. C'était presque comme une mini-société en elle-même. Alors on s'imagine très bien, si on s'attaque à cette cellule, qu'est-ce que ça fait sur l'ensemble de la société? Je ferme la parenthèse. La maisonnée, à l'époque, ce n'était pas juste papa, maman et les enfants. C'était père, mère, les enfants biologiques, souvent aussi des enfants adoptés, accueillis. Il y avait les grands-parents. Et il y avait d'autres proches qui étaient recueillis. Et si vous étiez riche, vous aviez encore dans votre maison des esclaves ou des serviteurs et leurs familles. Donc vous imaginez, votre groupe est vite conséquent. Voilà la maisonnée dont il est question lorsque Paul s'adresse à cette église. Lorsque Paul parle de famille. Et vous le voyez, déjà direct, Paul, on trouve dans ce texte toutes ces catégories que je viens de lister. Ça va de la mère à l'esclave et au maître, à celui qui en est responsable. Mais dans cette maisonnée, il y avait une dimension spirituelle très importante, et notamment chez les Romains, il y avait des divinités domestiques. On en trouve aussi dans d'autres parties du monde, aujourd'hui encore, pour cet équilibre. Il y avait des dieux pour protéger la maison et ses habitants, il y avait des petits dieux pour les ancêtres, il y avait un petit dieu pour le garde-manger, donc tout ce qui était la nourriture. Et au-dessus de tout cela, le père était responsable, c'est pour ça que j'ai écrit un père seigneur de sa maisonnée, le père était responsable du bon ordre, de conduire tout ce qui était cérémonial, les cultes autour de tous ces petits dieux, de tous ces codes domestiques qui étaient très présents à l'époque dans la vie. Et donc il y avait un ensemble de règles qui définissaient le rôle de chacun, le devoir de chacun. Il y avait un équilibre. Et vous l'avez entendu, et le titre le dit assez clairement, mais au-dessus de cela, chez les Romains en particulier, mais chez les Grecs aussi, il y avait le père, le pater familias, le père de famille, le chef absolu. Il exerçait une autorité sur toute la maison, épouse, enfant, et parfois avec un droit de vie et de mort, y compris sur ses enfants. Et son rôle était là de veiller à la bonne direction de la maisonnée, de maintenir l'harmonie et de maintenir aussi, face à toutes ces petites divinités, un équilibre. Il était responsable de cela. Et quelque part, l'équilibre de cette maison participait aussi à l'équilibre de toute la société. Et il y avait un certain nombre de règles. Et là, Paul nous donne à sa sauce, on pourrait dire, une règle, une table domestique. Paul s'en inspire. Et c'est là toute la sagesse de Paul. Le but de Paul, et inspiré par Christ, n'est pas de balayer tout ce qu'ils sont en train de vivre, tout ce qui est en place, de rejeter le fonctionnement romain ou grec, qui comportait bien des injustices, on y reviendra, mais il est réécrit, il est redéfini à l'image de l'évangile, à l'image de ce que Christ vient, quand Christ vient dans une vie, qu'est-ce que ça change? Et on va voir que c'est plus la domination d'un Père tout-puissant qui a tous les droits, c'est plus l'emprise de ces divinités païennes, c'est désormais la seigneurie de Christ. C'est lui qui est appelé à régner sur la maison. C'est lui qui replace chacun sa place. Et c'est pour cela que la suite, c'est Jésus Seigneur dans ma vie de famille. Dans la vie de couple et dans la relation entre les parents et les enfants. Paul a saisi une chose essentielle, c'est que la venue de Christ dans une vie, c'est pas juste un ensemble de règles, mais c'est dans le cœur et ça bouscule tout. Et on l'a vu les semaines passées. Elle déconstruit cette influence païenne qui structurait la famille sur la peur, sur une domination, sur la crainte des divinités. Elle nous rappelle, Christ est supérieur. Christ a eu toute autorité. Il règne maintenant. Et maintenant, il peut plus y avoir de tyran. Il peut plus y avoir quelqu'un qui aurait humainement tous les pouvoirs entre ses mains. Paul ne le dit pas dans ce texte, il le dit dans d'autres. Il rétablit quelque part l'ordre créationnel, un ordre qui est bon, un ordre où il est possible de vivre et de s'épanouir et qui est un cadre de paix où il y a des fruits lorsqu'on vit sur l'autorité, l'obéissance de Dieu, lorsque Dieu est au-dessus de nos vies. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais nos traductions ne le montrent pas tellement. Mais pourquoi je dis cela? Parce que dans ce petit texte, il y a le mot « seigneur » ou « maître » qui revient plusieurs fois. C'est le même mot, hein, d'ailleurs, parfois il y a écrit « maître », mais c'est chaque fois on devrait lire « seigneur ». Donc, il y a vraiment l'idée, Paul y met vraiment l'accent sur « seigneur ». Verset 18 « seigneur », verset 20 « seigneur », verset 22 « obéissez à tous vos maîtres », donc c'est « obéissez à tous vos seigneurs terrestres hein. ». Dans la crainte du Seigneur, le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur, Seigneur accordez à vos esclaves ce qui est juste, parce que vous avez un Seigneur dans le ciel, etc. Il y a plus de, je crois, 9-10 fois Seigneur. Paul est en train de dire, il y a un autre Seigneur. Maintenant, Christ est le Seigneur du foyer. C'est lui qui est appelé à régner sur votre maisonnée, dans vos cœurs et dans vos vies et dans vos relations. Et donc, la parole de Dieu nous donne un certain nombre de principes, de structures, avec des rôles qui nous semblent assez définis, des nouvelles orientations. Rappelez-vous pourquoi maintenant cette maisonnée doit vivre ? Pour la gloire de Dieu, pour l'honneur du nom de Dieu. C'est le contexte des versets qui, je vous invite à relire juste avant, le chapitre 3. On est appelé à vivre pour la gloire de Dieu, pour le nom de Dieu. Et pour Paul, la famille, les relations qu'on a avec nous doivent être là justement pour honorer Dieu. Et chaque relation est appelée à montrer, à manifester que oui, Dieu règne, qu'il est bon et qu'on veut vivre pour l'honorer. Nos vies de famille sont une ambassade de la manière, c'est un lieu visible où Dieu règne, où Dieu est vécu dans nos relations. Et on le sait, dans nos familles, c'est l'endroit le plus difficile à vivre cela. Dans le secret, derrière nos portes. On le sait depuis le jardin d'Éden, depuis les premières pages de notre Bible. On le sait que, à cause du péché, c'est là où Satan, a détruit les choses. Les familles sont attaquées en permanence, sont abîmées, sont perverties. Et je crois qu'aucune d'entre nous, aucune d'entre nos familles ne pourrait dire le contraire. Alors que c'est là que Dieu a un projet bon de paix, d'harmonie, d'épanouissement, de service mutuel, la famille est un lieu de souffrance, un lieu de conflit, un lieu de rupture, un lieu de souffrance. On n'a pas besoin, les médias cette semaine nous montraient les drames. 45% aujourd'hui des mariages, mais je pense que le chiffre est sous-estimé, se terminent par un divorce. 54% des femmes qui sont victimes de violences le sont dans leur foyer. La majorité des abus physiques envers les personnes sont faits dans un cercle proche, dans la maisonnée. Une agression sur trois des mineurs, elle est faite par un proche. On a une explosion des familles monoparentales, où les femmes sont délaissées à devoir éduquer seules leurs enfants. On est dans une société qui banalise l'infidélité. Certains enfants sont rois dans leur famille. D'autres sont totalement livrés à eux-mêmes derrière leurs écrans. On a tous ces contrastes. Ils sont rois et dans l'autre, ils sont complètement abandonnés. Ou sacrifiés sur l'autel de la réussite des parents, de la carrière, de la liberté des parents. Et puis voilà, vous avez tous les avortements qui vont aussi avec. Il y a cette guerre dans les familles. Et Paul est convaincu que lorsque Christ règne dans la vie des familles, elle est appelée à refléter toute la sagesse, tout le bon conseil. Et cela apporte paix, grâce, restauration. Et sous l'amour de Christ, de sa seigneurie, la famille peut être transformée. Elle peut devenir un lieu d'hospitalité, un lieu de fidélité, un lieu de restauration. Et c'est ça que Paul, il a en perspective. Alors là, on a le décor. Jésus, Seigneur, dans ma vie de famille. Et vous voyez, les premiers éléments, c'est la relation entre le mari et la femme. Jésus, Seigneur, dans ma vie de couple. Et Paul, il bouscule un peu d'entrée, dans ce contexte, les choses. Il s'adresse non pas aux hommes, d'abord, alors que c'était lui le padré, il s'adresse aux épouses. À une époque, on aurait commencé par le père. « Femme, soumettez-vous à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. » Je le sais, c'est le mot « soumission hein, » qui aujourd'hui dérange. Il est chargé d'histoire, il est chargé de réactions, il est chargé d'images négatives. Qu'est-ce qu'on entend quand on entend « soumission de la femme » ? On pense au combat des féministes, par exemple. On voit une domination, on voit une oppression, on voit ce langage du patriarcat religieux, judéo-chrétien, etc. Mais posons-nous la question, de quoi parle la Bible lorsqu'elle parle de soumission ? Et d'ailleurs, ce mot soumission, il n'est jamais seul, parce que c'est toujours un binôme, soumission-autorité. Parce que si on ne définit pas bien ces mots, on se plante. Dans la Bible, ni soumission ni autorité ne sont une arme de contrôle. L'autorité selon Dieu, c'est « j'ai une responsabilité, je porte une responsabilité, j'ai une responsabilité de servir ». L'autorité, c'est de servir l'autre. Je dois chercher le bien de l'autre, de le protéger, ce que j'ai sous ma responsabilité. Et la soumission, comme un miroir, ce n'est pas être écrasé, c'est un choix volontaire de reconnaître de vouloir coopérer avec celui qui a reçu une responsabilité de m'accompagner, de conduire pour le bien de tous. Et la soumission, elle est toujours volontaire. Dieu nous appelle à la soumission par rapport à lui. Elle est volontaire. Un jour, elle ne le sera plus, on le sait, ou tout homme fléchira le genou. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande une soumission qui soit volontaire. Et dans la Bible, ce n'est jamais celui qui a autorité qui soumet l'autre. C'est jamais celui qui a l'autorité qui soumet. C'est celui qui est soumis, qui accepte volontairement cette autorité. Et c'est ce qu'on est en tant qu'enfant de Dieu. On accepte d'être soumis à l'autorité de Dieu. C'est une démarche volontaire. Elle vient de Dieu lui-même. Brièvement, hein, Dieu, on parle de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Les trois, on le sait, ont la même autorité, la même valeur, la même dignité. Et pourtant, la Bible dit que le Fils est soumis au Père. Est-ce que ça veut dire qu'il est inférieur ? Non. Ça veut dire qu'il se soumet parce qu'il y a un ordre, un rôle qui est différent. L'autorité, la soumission n'enlève rien du tout à notre dignité, à notre valeur. On a des rôles différents, mais une même valeur. Et Paul l'avait déjà dit un peu avant. Et ça, c'est fondamental. Et d'ailleurs, la soumission dont il est question ici est aux femmes, mais elle n'est pas réservée aux femmes. Parce que la parole de Dieu nous appelle à nous soumettre aux autorités civiles, elle nous appelle à nous soumettre aux autorités de l'Église, elle nous encourage à nous soumettre au travail. Jésus-Christ était lui-même soumis à ses parents. Alors la question n'est pas à qui je me soumets, mais quel est le rôle que Dieu me confie ? Revenons à notre texte, Paul ne dit pas justement « Marie, soumettez votre femme ». Non, il ne dit pas cela. Il ne le dit jamais. Ici, il s'adresse à l'épouse. Elle concerne uniquement la réponse de l'épouse envers son mari, et d'ailleurs pas envers tous les hommes. Et au mari, il dit « aimez ». Et on va y venir. Alors soyons très, très clairs, un homme qui exige la soumission de son épouse n'a rien compris à ce que Dieu lui demande. Il n'a pas le mandat. Les hommes, je n'ai pas le mandat de soumettre mon épouse. Ce commandement-là ne m'est pas adressé. Il est adressé aux épouses. Le mien, il est tout autre. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus exigeant. Soumission, est-ce que c'est une servitude ? Non. Est-ce que soumission, c'est renoncer à penser ? Non. Est-ce que se soumettre, c'est obéir aveuglement ? Non. Est-ce que ça concerne un rôle domestique ? Non. La soumission biblique, c'est une attitude volontaire de cœur qui reconnaît une autorité qui a été donnée, un rôle différent, par laquelle, une femme honore son mari, lui manifeste une confiance et coopère avec lui dans la décision du foyer, de la maisonnée. Deux personnes, même dignité, même valeur, mais des rôles complémentaires. C'est révolutionnaire quand Paul il écrit cela aux Romains. Alors pour nous, ça devrait l'être aussi, parce qu'on allait peut-être dans l'autre sens. Mais attention, et c'est là que souvent, tout dérape. Cette soumission n'est jamais absolue, vous l'avez entendu, ce texte dit « dans le Seigneur », et ça change tout. Aucune autorité humaine ne dépasse celle de Dieu, parce qu'au-dessus de tout, il y a celle de Dieu. Si un mari pousse au péché, à l'injustice, à la violence, si un mari met sa famille en danger, l'épouse n'est pas appelée à se soumettre. Et je veux être très clair ici à Wittenheim, et peut-être on ne l'a pas été suffisamment peut-être parfois dans un passé, la soumission n'est jamais un prétexte pour tolérer un péché ou un quelconque abus, jamais. Un homme violent, un homme manipulateur est un péché grave dont l'homme devra rendre des comptes devant Dieu. Et je crois qu'en tant qu'Église, nous sommes appelés à agir. Et les autorités devraient être appelées lorsque c'est nécessaire. Et nous, responsables d'Église, on est peut-être amenés à prendre des décisions face à des situations qui viendraient à notre connaissance. Le foyer chrétien doit être un lieu de sécurité et de vérité. Chaque femme, chaque épouse de l'Église devrait savoir que derrière elle, il y a des sœurs, il y a des frères et sœurs qui veillent sur elle. Soyons vigilants les uns les autres. Il n'y a pas la place pour des abus. En tout cas, la parole condamne fortement. Alors la question est celle-ci, hein. Est-ce que je fais confiance à Dieu que lui qui a toute autorité, qui a tout pouvoir, est-ce que je crois que sa sagesse, elle est bonne de pouvoir modeler nos rôles qui sont différents, même si ça va à contre-courant de notre culture. La soumission biblique n'est pas une contrainte, mais est un acte de foi. Un choix réfléchi de coopérer, ensemble avec son mari pour le bien du couple et de la famille. Et le rôle de l'épouse est là d'encourager, de porter son mari à marcher à la suite de Christ. Et si le mari s'éloigne, elle est appelée à demeurer fidèle au Seigneur et à être vigilante et peut-être à sonner la sonnette d'alarme. Maintenant, parlons des maris. Je le disais tout à l'heure, hein, l'Antiquité, le mari, le père de famille, le pater familias, détenait l'autorité absolue. Chef du foyer, chef économique, chef juridique, chef spirituel. Alors imaginez-vous, est-ce que dans ce mode gréco-romain, est-ce qu'on demandait à un homme d'aimer sa femme ? Il n'y avait pas la question des sentiments, hein, de la tendresse, de la fidélité, du sacrifice, non. On attendait qu'il dirige, pas qu'il se sacrifie. D'ailleurs, écoutez ce que disait Épicure, philosophe grec, à propos des pères de famille. « Nous avons des prostituées pour le plaisir, des maîtresses pour le corps et des épouses pour enfanter et garder la maison. » Ça, c'est le contexte romain gréco. Voilà le modèle. Et réécoutons ce que dit Paul. « Marie, aimez chacun votre femme. » C'est tout. Mais en réalité, c'est une révolution. Aimer, l'amour agapé, on a ici. Paul ne dit pas « imposez-vous », il ne dit pas aux hommes « dirigez d'une main ferme », il ne dit pas « faites valoir vos droits ». Il dit « aimer ». Et c'est l'amour agapé, je le disais tout à l'heure, c'est l'amour dont parle l'amour que Christ a pour chacun d'entre nous. Autrement dit, Dieu confie à l'homme une responsabilité qui est désormais placée sous l'autorité de Jésus, mais qui est appelé à aimer comme Christ. Ouf. Et là, notre question d'homme, elle est là de se dire, mais comment Christ nous aime ? Et là, mes amis, ça devient sérieux. Je crois que nous, en tant qu'hommes, on est appelés à trembler. Et je crois que je tremble. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il se donne. Jésus sert. Jésus s'est sacrifié. Jésus est allé jusqu'à la croix. Jésus, enfin, etc. Voilà le modèle. Alors, aimer pour un mari, c'est pas un sentiment, c'est une décision, un engagement, un sacrifice, un abaissement, une manière de vivre. On est au service de nos épouses, pour le bien de son épouse, pas pour dominer, pas pour imposer, mais pour aimer, pour protéger, pour prendre soin. Alors, est-ce qu'on contraint ? Non. Est-ce qu'on manipule ? Est-ce qu'on fait pression ? Est-ce qu'on culpabilise ? Non. Un mari, selon Dieu, conduit avec sagesse, humilité, intégrité, comme l'a été notre Seigneur. Notre rôle n'est pas de passer devant, mais c'est de porter, c'est de prendre soin, physiquement, émotionnellement, spirituellement, matériellement, toute la maisonnée. Oui, il a amené à prendre des initiatives. Il a appelé à rappeler que au-dessus de notre foyer, au-dessus de mon autorité, au-dessus de ma vie, il y a Christ. Dans l'éducation de mes enfants, dans les valeurs que vont structurer la famille, dans la gestion, dans la protection. Je suis dépendant de Christ. Alors l'autorité, le leadership, si on voudrait dire biblique, se vit à genoux. Parce qu'on a besoin de dépendre de la seigneurie de Christ. Un mari, selon Dieu, est celui qui apprend à dire le premier, pardonne-moi. Le premier à reconnaître ses fautes. Le premier à dire, j'ai besoin de Jésus, j'arrive pas à vivre comme Dieu me le demande, j'ai besoin de son aide. Voilà le modèle! Quand cet homme se met à genoux pour servir sa famille, il n'y a rien de plus viril. C'est un peu la phrase que je me suis donnée. C'est à contre-courant, hein. Parce qu'aujourd'hui, à la fois, il y a le féminisme, et à la fois, il y a le côté où, sur toutes les vidéos, on montre les muscles, et il y a tout ce qu'il y a, la force de la masculinité. Et là, toute la force de la masculinité, nous dit Paul, c'est aimer. Ouh. C'est la fleur, plutôt. Bon. Lorsqu'un homme laisse la responsabilité spirituelle du foyer à sa femme, il passe à côté de son appel. Il est appelé à montrer le modèle. Et là, Paul, il termine avec cette pensée, hein. Il y a un danger très concret. Paul ajoute, ne vous aigrissez pas contre elle. L'aigreur, hein, c'est le vinaigre. C'est le truc qui... Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la maisonnée, il y a des pêcheurs. Il y a deux, si on est dans le couple, il y a deux pêcheurs dans la même maison. Ça crée des tensions, ça crée des blessures, ça crée des frustrations. Et si on n'y prend pas garde, il y a de l'amertume qui s'installe. Le cœur s'endurcit. L'amour se refroidit. Alors comment éviter cela ? Simple pour Paul, c'est revenir à la centralité de Christ, à la centralité de l'Évangile, un amour qui choisit de servir, un amour qui choisit de pardonner, un amour qui choisit de persévérer, un amour qui choisit de faire grâce, un amour qui ressemble à celui de Christ. Et là, on est tout le contexte de la suffisance de Christ, hein, même de ce chapitre 3. Alors messieurs, prenez 1 Corinthiens 13, l'amour, hein, et vous remplacez par l'amour par votre prénom. Patient, bienveillant, cherche pas son intérêt. Voilà. Voilà la cible que Paul nous dresse derrière notre dos, je dirais, mais non. L'exigence, elle est haute. Cela nous amène à la troisième, enfin une des troisièmes relations après le couple. Paul parle de la relation entre parents et enfants. Et là encore, Christ est au centre. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et là encore, Paul reprend un commandement bien connu, je le disais tout à l'heure avec les enfants, hein. Exode 20, honore ton père et ta mère. C'est le cinquième commandement. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ce cinquième commandement, il est après tous ces commandements qui parlent, il est au milieu, hein, le cinquième. Il parle après de tous ces commandements qui parlent de cette relation à Dieu. Il y a les enfants, et après il y a toutes les relations humaines. Avant le meurtre, avant, de pas, tout, vous savez, tous les autres commandements qui concernent les relations humaines. Avant cela, il y a honore ton père et ta mère. C'est quand même important. Pour Dieu, il y a cet ordre, il est logique. avant de parler de vol, de mensonge, de convoitise, honore ton père et ta mère. Pourquoi ? Pourquoi, à votre avis ? Parce que c'est dans la famille qu'on est à l'école de l'obéissance et de l'obéissance à Dieu. C'est là que tout commence. C'est là que l'enfant apprend à distinguer ce qu'il a le droit de faire de ce qu'il n'a pas le droit de faire. C'est là qu'il apprend à se soumettre, l'enfant dans une famille, à se soumettre à une autorité, ici en l'occurrence ses parents, et de vivre bien avec les autres. Et au fond, connaître l'autorité qui est encore au-dessus, Dieu. Si on regarde notre société aujourd'hui, on parle de quoi ? D'insolence, de violence chez les enfants, de jeunes en perte de repères. D'où viennent ces dérives ? Bien sûr, il y a des exceptions, hein. Il y a des parents qui font tout bien et l'enfant prend un mauvais chemin, oui, mais très souvent. Il n'y a pas d'enfant qui soit dans la délinquance sans que derrière, il y a une famille qui soit défaillante. Des familles brisées ou déséquilibrées, ou un père ou un mère absent, voire destructeur. Pourquoi ? Parce qu'un enfant a besoin de voir et de goûter une autorité qui est soumise à Dieu, à Christ. Pas n'importe laquelle, une autorité aimante, a besoin de voir des parents qui exercent une autorité qui soit juste, une autorité qui construit. Et c'est pour ça que Paul, il s'adresse aux enfants, obéissez, il ne dit pas discuter, négocier, il dit obéissez, parce que cela est agréable au Seigneur. Il y a vraiment une notion où l'enfant va apprendre. C'est pas juste une question d'éducation, c'est il y a une question spirituelle. Obéir. Mais Paul ne s'arrête pas là, hein, vous l'avez vu, il l'a entendu, il s'adresse au père, et par extension, littéralement aux parents, parce que normalement il y a écrit père dans nos traductions, mais il y a l'idée vraiment que c'est nous parents, on ne doit pas exaspérer nos enfants. Et là encore, c'est révolutionnaire, parce que dans l'Antiquité, un enfant, c'est quoi ? Il n'y a pas l'UNICEF, il n'y a pas des droits de l'homme, il n'y a pas les droits des enfants, il n'est pas au centre d'une protection particulière. L'enfant était souvent considéré comme une propriété, une force de travail, une unité économique. Et quand dit Paul, il dit « attention à la manière dont vous réagissez avec vos enfants », c'est contre-culturel. Nous, on le voit pas trop, mais quand Paul il s'adresse aux Colossiens, c'est clairement le cas. Paul met en garde des parents contre un abus d'autorité vis-à-vis de leur enfant. Et là aussi, c'est vrai que dans notre culture, il y a des abus d'autorité, malheureusement. Qu'est-ce que ça veut dire exaspérer un enfant ? Moi, je dirais que c'est une autorité qui est incohérente. C'est une autorité qui est dure. Une autorité qui est injuste, une autorité qui est humiliante, où il y a du favoritisme, ou une autorité qui est indifférent à leurs besoins physiques, émotionnels, affectifs. Une autorité qui ne tient pas compte de tout cela. Qu'est-ce que ça produit ? Soit la révolte des enfants, soit l'écrasement. Et l'enfant s'éteint. Et dans les deux cas, c'est un drame. Quelle est l'alternative ? Paul, il nous encourage à être soumis à celui qui est au-dessus de nous. Les parents sont appelés à refléter Christ et ça change tout. Parce que les enfants ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. On n'en est pas les propriétaires, on en est responsable, oui. Dieu nous appelle en tant que père et mère à refléter Jésus dans notre rôle éducatif. C'est pas de fabriquer un enfant à notre image. C'est pas de projeter sur lui nos rêves, nos ambitions, nos frustrations. C'est de former un cœur qui est appelé à aimer et à reconnaître la Seigneurie de Christ. Alors on n'est pas là pour cocher un enfant sage en apparence. Mais notre responsabilité est de travailler les cœurs et de montrer que l'enfant peut aimer le bien, qu'il est appelé à rejeter le mal, à discerner, à grandir. Alors oui, il y a l'exercice de l'autorité. Mais si on rappelle qu'est-ce que c'est l'autorité d'avant, de tout à l'heure, l'autorité c'est servir, l'autorité c'est demander pardon, c'est reconnaître qu'on n'a pas toujours mal agi. Et je crois que ça bousculerait beaucoup de nos enfants si à un moment donné, le nombre de fois où on a élevé la voix parce qu'ils nous ont un peu saoulés avec le bruit, c'était juste pour notre confort, et que quelques minutes après on reconnaît devant eux, écoute, je t'ai blessé, c'était pas moi, j'ai élevé la voix, c'était pas ce que Dieu me demande vis-à-vis de toi. Dieu me demande de te respecter, de t'honorer comme une personne à part entière. Mais bien sûr, il y a des règles, mais est-ce que ça n'assoit pas notre autorité si on vivrait la grâce, le pardon, la repentance et bien d'autres choses ? Notre rôle est de préparer nos enfants à devenir des adultes capables de discerner, de choisir et d'écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on veut être des parents qui contrôlent ou des parents qui écrasent, des parents centrés sur nous-mêmes ou des parents qui reflétons la Seigneurie de Christ? Au fond de tous ces textes, c'est la même question. C'est qui est Seigneur de mon cœur? Et enfin, un dernier volet de notre texte, après les couples, les enfants, Paul parle de mon activité, je vous rassure, un peu plus court. Et Paul prend un exemple aussi très concret de l'époque, la relation entre les maîtres et les esclaves. Je le disais en introduction, les maîtres et les esclaves, ça faisait partie de la maisonnée. Et c'est intéressant. Je me suis interrogé pourquoi le Nouveau Testament, peut-être que c'est votre question, ne condamne pas l'esclavage. Alors on a déjà l'image de l'esclavage du temps récent, hein, l'esclavage avec l'Afrique et avec etc. Mais surtout quand on a Paul qui dit au verset 11, hein, il n'y a plus ni juif, ni circoncis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, hein, ou mais Christ est tout et en tous. Est-ce que Paul est en train de se contredire là parce que maintenant il revient sur des différences? Non, il faut comprendre le contexte. Dans l'Antiquité, l'esclavage structurait tout. 80% des hommes, alors j'imagine 80% d'entre nous, étaient des esclaves ou des affranchis. C'est énorme, c'était la main d'œuvre essentielle dans un monde rural où tout le monde travaillait 7 jours sur 7. Il n'y avait pas les 35 heures, hein. Alors, est-ce que Paul, avec une petite église, pouvait appeler à une révolution sociale, à renverser le système? Non, ça n'avait aucun sens. L'église n'avait aucun pouvoir politique. D'ailleurs, les chrétiens étaient minoritaires et ils étaient souvent persécutés pour leur foi. Mais que fait Paul? Paul, il fait quelque chose de beaucoup plus profond. Il vise les cœurs. Comme ce qu'il vient de faire jusqu'à présent. Il vise les cœurs. Parce que l'évangile, ça touche tout le monde. Les pauvres comme les riches. Les esclaves comme les maîtres. Et dans l'église de Colosse, se produit quelque chose de révolutionnaire pour l'époque, sur les mêmes bancs, on pourrait dire, autour du même foyer, du même feu, se retrouvent des hommes et des femmes que tout séparait. Et qui se retrouvaient ensemble, on le disait là, dimanche dernier, pour adorer Dieu. Des maîtres assis à côté des esclaves. Et maintenant, des enfants à côté de parents. Et maintenant, ils s'appellent frères et sœurs. Je crois que pour les gens qui les regardaient de la maison à côté, ça devait être choquant. Imaginez cette scène à Colosse. Ces personnes où il y a tout qui oppose socialement, et j'imagine que ça se voyait même dans la tenue. Il n'y a pas de sécurité sociale pour essayer de niveler et de rattraper les écarts entre les riches et les pauvres. On l'a pas encore dit, mais derrière cette lettre aux lettres aux Colossiens, il y a aussi la lettre au Philémon. Vous vous rappelez Philémon? Paul a rencontré, alors qu'il est en prison, il a rencontré un esclave qui est fugitif, Onésime. Onésime devient chrétien, et Paul le renvoie avec sa lettre, avec cette lettre aussi. Chez qui? Chez Philémon, qui est son maître, et Philémon, il est où? Dans l'église de Colosse. Imaginez l'arrivée. L'église réunie, la porte qui s'ouvre, Onésime qui rentre, celui qui a trahi son maître, un esclave fugitif, selon la loi romaine, il risquait très cher. Mais au milieu de cela, Paul, dans la lettre au Philémon, dans la lettre aux Colossiens, rappelle quoi? L'évangile, le pardon, la réconciliation, la grâce, la relation qui est transformée, le cœur qui est maintenant soumis à Dieu. Paul ne légitime pas l'esclavage, mais il montre comment l'évangile transforme les cœurs et les réalités. Et il dit maintenant aux esclaves, servez. Vivez comme si vous serviez le Seigneur. Et il appelle les maîtres, vous aussi maintenant, vous avez un maître au ciel. Alors autrement dit, qui règne maintenant sur vos vies? Rome, les structures sociales ou Jésus? Jésus Seigneur de ma vie, quelle que soit ma condition. Alors si on est concrètement, hein, je vais juste lister, hein, mais quelle attitude Paul souligne? Il parle d'obéissance. Il parle de faire ce qui est demandé, de travailler sérieusement, avec attention, pas seulement quand on est surveillé, pas seulement pour bien paraître ou chercher à impressionner. Est-ce que je cherche à impressionner mon patron ou mon Dieu? Paul parle de sincérité du cœur et de la crainte de Dieu. On est dans le même vocabulaire depuis le début du chapitre. C'est le cœur, l'intégrité, être le même quand quelqu'un me regarde ou que personne ne me regarde. Qu'est-ce qui se passe lorsque le bureau de mon porte est fermé? Dieu, lui, voit tout. Est-ce que je suis soumis à l'autorité de Dieu? Un commerçant qui fausse sa balance, est-ce qu'il craint Dieu? Un employé qui ment sur ses heures, est-ce qu'il craint Dieu? Un responsable qui cache la vérité, est-ce qu'il craint Dieu? La réponse est dans la question. Et Paul résume toute l'éthique chrétienne avec cette phrase, verset 23, si ça suffisait pas, « Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Ça change tout. Tout devient spirituel. Il n'y a pas une activité plus noble que l'autre, plus ordinaire de l'une que l'autre. Tout doit honorer Dieu, tout doit glorifier Dieu, tout doit montrer qu'on a Dieu qui règne dans nos vies. On est appelé à servir le même Dieu, là où il nous a placés, dans un bureau, sur un chantier, à la maison, partout. Je vis sous le regard de Dieu. Alors que faire quand l'autorité est injuste? Quand un patron est tyrannique? Quand il demande des choses illégitimes? On a déjà eu les réponses. À l'époque, il n'y avait aucune issue, hein. Mais aujourd'hui, on a des lois. Toute autorité est déléguée. Et notre autorité n'est pas appelée à dépasser celle de Dieu. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et Paul, le premier verset, hein, de chapitre 4, Paul s'adresse à ceux qui ont aussi des responsabilités. Et là, l'évangile encore change tout. Les esclaves que vous avez ne sont pas des objets, sont des hommes, des femmes aimées de Dieu, créées à l'image de Dieu, égaux devant vous, qui exercent une autorité. Qui exerce une autorité? Vous avez à rendre des comptes à un maître qui est au ciel. Vous voyez toute la logique du texte, l'autorité qui est au-dessus de nous. Alors oui, Paul n'a pas dénoncé l'esclavage en tant que tel. Il est allé à ce qui faisait les mécanismes, le cœur. Et quand on regarde l'histoire, on voit que ce sont de nombreux chrétiens qui ont porté les droits de l'homme, l'abolition de l'esclavage, les droits des enfants, etc. Parce que l'évangile avait transformé les cœurs et le regard qu'on pouvait porter les uns sur les autres. L'Église n'est pas appelée à imposer un changement, n'est pas appelée à imposer un changement extérieur, elle est appelée à être un témoignage, un modèle du cœur, quelle que soit notre responsabilité. Alors la question reste la même, quelle que soit notre position, comment Christ règne dans vos vies? Et là, c'est une démarche de foi à chacun. Temps de conclure. J'aimerais nous inviter à prendre un peu de recul. J'étais interpellé parce que Paul écrit cette lettre non pas à des individus isolés, non pas à la famille Ludman, non pas à la famille Almeyer, non pas etc. Mais il écrit à toute l'Église. Imaginez-vous un peu la scène. Cette lettre est lue publiquement, alors bien sûr probablement reprise aussi dans les maisonnées, comme je le disais tout à l'heure, mais tout le monde est là, les maris, les femmes, les enfants, les parents, les serviteurs, les responsables. Et chacun entend, voilà comment vous êtes appelés à vivre, voilà comment vous devez aimer, voilà comment vous devez vous comporter, voilà ce qui doit se vivre dans vos foyers. Alors je ne sais pas vous, mais moi ça me dérange. Parce qu'aujourd'hui, nos familles, c'est privé, c'est personnel, c'est intime. Est-ce que vous aimeriez vous entendre dire « Voilà comment tu dois traiter ton épouse. Voilà comment tu devrais éduquer ton enfant. Tu es qui, toi, pour me dire cela ?» J'ai échangé cette semaine avec un collègue et on partageait notre préoccupation de voir... comment dire, cette dichotomie, cette différence entre ce qu'on peut laisser paraître quand on est ensemble et ce qu'on est capable de vivre parfois dans notre intimité, dans justement notre chez-nous. Et on se disait le nombre de fois où l'Église, elle est surprise, le couple modèle, qui explose comme ça d'un coup. Et pourquoi? Parce que la famille n'est jamais séparée de l'Église. L'Église est une famille composée de familles, un seul corps, une seule maisonnée spirituelle, on pourrait dire. Voilà pourquoi la santé de nos familles, la santé de nos vies, la santé de nos responsabilités concerne toute l'Église. La manière dont je parle à mon épouse, la manière dont je m'adresse à mes enfants, la manière dont je me comporte au travail, ça fait partie de mon témoignage. Et l'Église, la parole de Dieu, a quelque chose à dire. Tout cela révèle quelque part de ma soumission à l'autorité, à Christ. Et je vais être concret. Vous dites, ouais, mais c'est pas très grave. Dans quelques jours, les membres de l'Église vont voter. Mathieu, je pensais pas que tu serais là, mais il est là. Il est parti. On est appelé à reconnaître Mathieu comme ancien, comme devant rejoindre le conseil pastoral. Et qu'est-ce que nous, la Bible nous demande de regarder? Elle nous demande de regarder ses relations. Elle nous demande de regarder son couple. Elle nous demande de regarder ses interactions avec ses enfants. Elle nous demande de regarder sa réputation avec les gens du dehors. En fait, en tant qu'Église, ma vie de famille n'est pas privée du tout. Elle est appelée. Parce que c'est là que l'Évangile devient visible et devient une cohérence ou non à la Seigneurie de Christ. Paul nous encourage à ce qu'en tant qu'Église, on sache discerner ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui honore Dieu. Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Non pas pour juger, mais pour nous aimer. Non pas pour condamner, mais pour nous soutenir et vivre la grâce. Parce que dans la réalité, on a tous des réalités différentes. Certains se sont convertis dans des situations déjà familiales compliquées. Certains élèvent seuls leurs enfants. Certains sont jeunes, mariés. Certains ont des années d'expérience, des années de conseils, de sagesse à nous transmettre. C'est ça l'Église, toute cette diversité. Et on a besoin des uns des autres pour nous encourager, pour nous accompagner, pour nous former, pour nous soutenir, pour nous exhorter quelque part, pour porter ceux qui sont fatigués. C'est ça l'Église. C'est aussi reconnaître, j'ai besoin d'aide. Là, ça va plus avec mes enfants. J'ai besoin d'un conseil. Comment t'as fait avec ton fils lorsqu'il devient sans loi? J'ai besoin qu'on prie pour moi. Et parfois aussi, c'est d'avoir le courage, et là je nous le dis en tant qu'ancien, on a du mal parfois, le courage d'intervenir avec amour dans un foyer, dans une famille où on voit, où on discerne, il y a quelque chose qui est pas net, on doit crever l'abcès, il y a un couple qui souffre, il y a une famille qui vacille, quand quelqu'un s'éloigne de Dieu. Et pourquoi, et je termine par cela, il n'y a pas d'église en bonne santé sans une famille en bonne santé. Et parce qu'une église est en bonne santé, elle aide les familles à grandir et à être aussi en bonne santé. Les choses sont... On est dans un monde qui déforme, qui abîme, qui fragilise les familles et l'Église, par ricochet. Alors on est appelé à vivre entre nous ce qui est le plus précieux. Un témoignage de la soumission à Christ, de l'Évangile. Des foyers où on apprend la grâce, le pardon, la repentance, la paix, la réconciliation. Pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'on reconnaît qu'on a besoin de l'aide du Seigneur. Alors ma prière, elle est toute simple, et je vais terminer par cela. Et ma prière est que Dieu veille sur nous, sur nos familles, qu'elle veille sur notre Église, qu'elle veille sur la manière dont je suis un homme, la manière dont je suis une femme, la manière dont je suis un enfant. Amen.